Bonjour à tous, vous allez entendre un message enregistré à la conférence Ascension 2018 organisée par Newground en France et Nouvelle Frontière France. Si notre famille d'église ou les événements que nous organisons vous intéressent, n'hésitez pas à visiter notre site internet new-ground.fr.
C'est parti, on va prendre 1 Pierre chapitre 2 à partir des versets 4 à 9. 1 Pierre 2, 4 à 9. Si vous avez vos bibles, peut-être prenez-le avec vous parce que c'est quand même mon passage essentiel pour ce que j'ai à vous partager. Je vais aussi raconter beaucoup de témoignages, mais je vais aussi chercher à vraiment apprendre deux, trois choses de la part de la parole de Dieu. On va continuer à parler d'implantation d'église. C'était super d'avoir George et 1 Pierre 2, versets 4 à 9. D'avoir George et Jill et Stuart et Amel qui nous ont raconté ce qu'ils ont vécu. Et donc vous saurez aussi que ça fait maintenant plusieurs mois que Rebecca et moi, on s'est embarqués dans une aventure en implantant une église sur Paris. Suite à un appel de la part de Dieu très clair l'été dernier. Et on a appris beaucoup de choses. Je vais peut-être commencer, en fait, avant de prendre 1 Pierre 2, 4 à 9, en vous racontant un tout en très, très, très bref ce qui s'est passé pour nous. Donc, les premières personnes qui ont dit qu'ils voulaient faire partie de notre équipe, on les a accueillies à la maison. C'est des personnes qui nous sont très, très chères. Lui a 74 ans, elle en a 64. Et c'était vraiment bon. On voulait être une église de toutes les générations dès le début. On s'est dit, le grand risque, vu notre âge, c'est qu'on devienne une église jeune et qu'on devienne ensuite une église de jeunes. Et c'est ce qu'on voulait absolument éviter. On a demandé à Dieu, mais Seigneur, envoie-nous des personnes qui pourront être des pères et des mères spirituelles dans la maison. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Donc les premières personnes sont venues et nous ont dit, voilà, on aimerait bien vivre l'aventure avec vous. On a dit, bah, super, venez manger à la maison. Et on a parlé et Jacques m'a demandé, donc, ok, c'est quoi le plan ? Je lui ai dit, j'ai pas de plan. J'ai juste une phrase. Une église de disciples qui font des disciples, qui font des disciples, rassemblés dans une église qui implante des églises, Et c'est tout ce que j'ai. Et Jacques m'a dit, super, j'étais content que tu allais dire quelque chose. J'espérais que tu allais dire quelque chose comme ça. Et il m'a dit quelque chose qui est très similaire à ce que John nous a dit hier, c'est que la fondation de la mission à laquelle Dieu nous a appelés, c'est faire des disciples. C'est pas implanter des églises. Et l'implantation d'églises est le découlement naturel de personnes qui font des disciples. Nous faisons des disciples et la façon biblique de le faire, c'est de les rassembler en communauté. Et cette communauté de disciples, c'est ce qu'on appelle l'église. C'est ça la réalité qu'on voit dans le Nouveau Testament. Et à partir de ça, ils nous ont expliqué comment eux, ils l'avaient fait au Yémen et ça nous a vraiment mis le feu. Où on sentait Dieu nous dire, mais revenez au Nouveau Testament et voyez à quoi ressemblait l'Église dans le Nouveau Testament. Et on sentait que Dieu nous appelait à commencer dans notre maison et à multiplier depuis ça pour avoir des groupes de personnes partout en Île-de-France qui font des disciples les uns des autres et qui multiplient des disciples et qui multiplient des communautés. Et pour nous, c'était OK, bon, ben, on habite dans le 15e, on va commencer dans le 15e. Et on commençait à sentir que Dieu nous parlait de ça, on commençait à se faire une idée de ça. Et puis, quelques semaines plus tard, j'ai un ami très cher qui était en train de chercher à faire quelque chose de similaire dans la région sud-ouest de Paris, qui me contacte et qui me dit, Nathan, est-ce que ça te dit qu'on travaille ensemble ? Il me dit, voilà, moi je suis un évangéliste, je le savais, c'est un excellent évangéliste, et toi tu es vraiment un super pasteur et un enseignant, est-ce que ça te dit qu'on travaille ensemble ? Et nous on lui a dit, super, vas-y viens, emménage dans le 15e. Parce que c'est là qu'on est, c'est là qu'on part. Et moi, mon problème souvent, c'est quand j'ai une vision, je fonce avec cette vision et j'essaye de faire en sorte que tout rentre dans le cadre de cette vision. C'est mon instinct naturel, c'est comme ça que je suis fait. Et c'est quelque chose contre lequel il faut que je me batte. Et c'est de ça que je veux parler en fait ce matin. Et donc, on lui a dit, vas-y, viens, emménage dans le 15e. Et il a dit, moi, j'ai déjà une petite communauté dans le sud-est de Paris. Et je lui ai dit, ok, d'accord, peut-être qu'on ne va pas pouvoir bosser ensemble. Alors, peut-être qu'on prie. Viens, on prie et on voit ce que Dieu dit. Et à la suite de ça, dans la même semaine, je prends un super sushi avec un bon pote à moi qui est là au fond. Et donc, JD et moi, on s'assoit et je lui raconte un petit peu ce qui nous est arrivé, les paroles que Dieu nous a données, ce qu'on avait commencé à faire. Et il me dit, mais c'est génial un petit peu ce que tu me racontes. Tu sais que je vis quelque chose de similaire dans le sud-est, à 5 minutes d'ici, figurez-vous. Et il y a des gens qui viennent à nous. On a baptisé deux filles récemment. On commence à faire des disciples, mais on aimerait bien le faire avec d'autres personnes. Est-ce qu'on peut le faire ensemble ? Et on sentait Dieu commencer à nous parler et à dire, OK, bah, commencez comme ça. Plutôt que de commencer avec un, pourquoi ne pas imaginer, concevoir, commencer avec trois? Et c'est un petit peu ce qui s'est passé. Et avec le temps, les choses sont en train d'évoluer. La communauté qui est là dans le sud-ouest de Paris est en train de vivre quelque chose de super fluctuant. Nous, au niveau du centre, on a de plus en plus de personnes qui viennent et qui ont envie d'en faire partie. Et on commence à se dire, mais notre maison va devenir trop petite. Et on n'est pas encore prêt à multiplier. On n'a pas les fondations de relations qui sont suffisamment grandes pour multiplier. On n'a pas suffisamment bien ancré ce qu'on cherche à vivre avec les personnes pour les multiplier. On a des gens qui vraiment envoient le leadership sur leur vie, mais c'est pas encore le moment pour multiplier. Il nous faudra bien, bien plus de temps que ça pour le faire. Et on commence à se dire, est-ce qu'il faut qu'on trouve un bâtiment, alors qu'on avait vraiment eu la vision à la base de faire ça dans les maisons, même si on avait toujours dit dès le début qu'on ne veut pas limiter ça à des maisons. Et ce que j'ai toujours dit, c'est que je n'ai pas une théologie de l'église de maison. J'ai une théologie de l'église qui se multiplie. Et c'est extrêmement différent. Ça veut dire qu'on peut tout le temps suivre ce que Dieu fait et là où Dieu nous emmène. Et donc, on prend 1 Pierre 2, versets 4 à 9. Approchez-vous de Christ, la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. En effet, il est dit dans l'Écriture, « Je mets dans Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse. Celui qui croit en elle n'aura jamais honte. » Elle est donc précieuse pour vous qui croyez. Quant à ceux qui désobéissent, la pierre rejetée par ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. Elle est aussi une pierre qui fait obstacle et un rocher propre à faire trébucher. Ils s'y heurtent parce qu'ils désobéissent à la parole et c'est à cela qu'ils ont été destinés. Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas connu compassion, vous avez maintenant obtenu compassion. Il y a quelque chose de formidable dans ce passage, c'est que Pierre est en train de nous dire quelque chose sur la fondation de l'Église, qui sont ses disciples qui forment cette communauté de personnes. Pierre les décrit comme des pierres vivantes qui forment un édifice spirituel pour Dieu en Christ. Et ça change notre façon de vivre l'Église et de communiquer la vision et de suivre Dieu quand on comprend cette réalité fondamentale. Vous voyez, je vous ai dit que moi, je suis quelqu'un qui, quand j'ai une vision, il faut que tout rentre absolument dans le cadre de cette vision parce que c'est la vision. Et je suis fait comme ça, c'est mon instinct naturel. Mais ce qui se passe, c'est quand un leader fait ça, il a cette sorte d'image de l'édifice comme il doit, et à quoi il doit ressembler. Et le problème, c'est que pour bâtir cet édifice, il faut que les pierres ressemblent exactement à ce à quoi j'ai besoin qu'elles ressemblent. Il me faut des briques bien taillées, bien carrées, exactement comme il se faut. Et le problème, c'est que c'est pas ce que Jésus nous envoie. Et c'est de ça que je suis en train de me rendre compte, c'est ça que je suis en train d'apprendre, et je suis en train de chercher à apprendre à bâtir avec des pierres vivantes. Donc, il y a une place pour la vision, absolument, mais ne devenons pas prisonniers de la vision. Alors que Dieu nous dit, voilà, je vous appelle à implanter une église, il est celui qui envoie des personnes, il est celui qui bâtit l'église, il est celui qui nous envoie des pierres. Et une chose qui est formidable avec des pierres vivantes, c'est que, bien sûr, nous, on doit apprendre à les bâtir ensemble, avec la forme qu'eux ont déjà, mais si une pierre est vivante, elle aussi peut changer de forme. Elle aussi peut être mobile, peut être évolutive. Et ça demande tout un talent de trouver l'équilibre entre dire, voilà ce qu'on cherche à accomplir. Est-ce que je peux te demander, toi, pierre vivante, de juste changer de forme un petit peu pour venir te caler avec le reste des autres pierres? Ça, c'est une chose. Mais c'est aussi pour les leaders de savoir dire, OK, voilà ce que Dieu nous envoie. Voilà qui on a, voilà les personnes avec qui on travaille, voilà l'Église que nous sommes. Et donc, apprenons à marcher et à fonctionner avec ça. Et ça demande, en fait, c'est quelque chose que je suis en train d'apprendre, implanter une église, ça demande beaucoup d'évolutivité, ça demande beaucoup de mobilité et en même temps beaucoup de stabilité. Donc je vais vous lire un petit peu deux choses que Jésus dit dans l'évangile de Jean. Il dit, en vérité, je te le dis, c'est Jésus qui parle à Nicodème, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de parents humains est humain, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'esprit. C'est fascinant ce que Jésus est en train de dire sur la nature d'hommes et de femmes qui sont baptisés dans le Saint-Esprit. C'est que nous, on peut avoir une idée très très claire de comment les choses doivent se faire, séquentiellement, avec des dates, etc. Mais Dieu est en train de dire, mais l'Esprit souffle où il veut. Et l'Esprit fait ce qu'il est en train de faire. Et notre tâche à nous en tant que leader, c'est de savoir voir ce que l'Esprit est en train de faire. Et c'est de savoir l'accompagner, c'est de savoir canaliser l'action de l'Esprit, lui donner une forme et avancer dans la direction où le Saint-Esprit veut aller. Plutôt que de décider à l'avance, j'ai ma vision, j'ai mon chemin qui est tout tracé et je vais me laisser être prisonnier de ça. Un autre passage, c'est Jésus qui dit dans Jean 5, versets 19 à 20, « en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, sinon ce que le Père va accomplir. Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le sait pareillement. En effet, le Père aime le Fils et lui montre tout ce que lui-même fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. » Et je suis convaincu que cette relation que le Père a avec son Fils, le Fils là aussi avec son Église, ça c'est biblique. On voit ça dans 1 Corinthiens. Et ce qui est formidable, c'est que le Fils, comme on l'a vu hier, le Fils est bon. De la même façon que le Père est bon et il veut faire des choses merveilleuses à travers le Fils. Et le Fils regarde au Père et il est en train de dire, Père, qu'est-ce que tu es en train de faire ? Nous, l'Église, on doit être là en train de dire, mais Jésus, c'est toi qui bâtis l'Église. Et je vais te laisser toi bâtir l'Église. Je vais te laisser toi être vraiment le chef de cet édifice qui est le tien, qui est ton temple. Tu en es la pierre angulaire et c'est toi qui vas le former, c'est toi qui vas le faire avancer. Et donc, je veux juste vous encourager. Peut-être que vous pensez à l'implantation d'Église, mais vous vous dites, mais j'en suis pas capable. Mais vous inquiétez pas, c'est Jésus qui bâtit son Église. Notre travail, c'est de savoir observer avec des yeux spirituels qu'est-ce que Dieu est en train de faire, de savoir l'accompagner pastoralement, de savoir l'accompagner en gardant les yeux focalisés sur les choses essentielles. Et c'est la deuxième chose que j'ai envie de dire sur ce que j'apprends. C'est que oui, nous sommes des pierres vivantes, mais il y a une pierre, la plus vivante de tous, qui ne change pas. C'est la pierre angulaire, c'est Jésus. Et donc, bien que dans le modèle d'Église, et comme le disait John hier, nous voulons multiplier les modèles, bien que dans l'implantation d'Église, il y aura des modèles différents, il y a une chose qui ne change pas, c'est nos valeurs, c'est les fondations, c'est les choses que nous posons, c'est la pierre angulaire qui est Christ. Et Pierre en mentionne plusieurs dans ce passage. Il dit, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. Première chose, une église sert à la louange de Dieu. Quelle que soit votre forme, quel que soit votre modèle, quelles que soient vos méthodes, est-ce qu'il y a quelque chose d'essentiel qui est dans la fondation de tout ce que vous faites, qui sert à la louange de Dieu, qui dit nous existons comme un peuple pour adorer Dieu. Et on voit souvent la mission comme première, et j'ai l'impression que la mission en fait qui est première pour nous, c'est de servir à la louange de Dieu. Qui a lu plutôt le livre « Que les nations se réjouissent » de John Piper ? « Let the nations be glad » en anglais. Et John Piper dit quelque chose de tellement important au début. Il dit la louange existe, non, la mission existe parce que la louange n'existe pas. Dans les contextes, dans les endroits, dans les cœurs, dans les villes, les villages, dans les lieux de travail, les voisinages où des gens n'adorent pas Dieu, nous devons aller en mission pour que la louange soit suscitée depuis cet endroit-là. Il dit la mission n'est pas ultime et la louange est ultime parce que la mission est envers les hommes et la louange est envers Dieu. L'homme n'est pas ultime, Dieu est ultime. Il est en train de dire que la mission n'est pas éternelle, la louange, elle, est éternelle. Il y a un jour où on n'aura plus besoin d'être en mission parce que la terre tout entière, le cosmos tout entier aura été récapitulé en Christ et le ciel sera pleinement venu sur la terre. Il y aura eu cette union entre les cieux et la terre et Christ sera tout et en tous. Il n'y aura plus besoin de mission. Mais la louange continuera toujours. Nous servons à la louange de Dieu. Et peu importe l'église que vous implantez, implantez une église qui loue Dieu. Implantez une église qui loue Dieu. Ça, c'est essentiel, c'est un fondamental. Et donc, il dit ensuite que nous sommes bâtis autour de Christ. Il est la pierre angulaire. Et donc c'est non seulement un principe pour dire bah, laissez Jésus bâtir votre église, c'est aussi une injonction à laisser Jésus être le centre de votre église. Ne devenons jamais des églises qui devenons trop amoureux de la forme que prend notre église. Que vous soyez dans le mode église cellulaire ou église méga-church, ne devenez pas amoureux de votre modèle d'église. Restez amoureux de Jésus. Et gardez-le lui au centre. Il est la pierre angulaire, peu importe ce qu'on bâtit. La forme est absolument secondaire. C'est Jésus qui est essentiel. Et c'est lui qui est au centre de tout ce qu'on fait. Et celui qui croit en elle, en cette pierre, n'aura jamais honte. Elle est donc précieuse pour vous qui croyez. Il dit ensuite, vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi. Vous êtes des prêtres royaux, vous êtes une nation sainte. Ça, c'est un autre fondamental. Nous cherchons à implanter des églises où tout le monde est partie prenante, où tout le monde est partie prenante dans la mission de Dieu, où tout le monde cherche à jouer son rôle, à avoir sa part. On ne veut pas d'église où il y a des professionnels de la religion qui font leur truc, où il y a des gens qui sont spécialisés dans telle et telle sphère qui se réservent le ministère. Nous cherchons à être des églises où des ministères sont levés et multipliés, mais le ministère sert à équiper les saints pour l'œuvre du service. Êtes-vous évangéliste ? Merci Seigneur. Mais pour vraiment montrer que vous êtes des évangélistes, la question que je vous poserai, c'est où est l'armée d'évangélistes qui vient derrière vous ? Où sont les autres évangélistes que vous levez et que vous encouragez ? Est-ce que vous êtes un responsable de groupe de maison ? Super, c'est un ministère que Dieu vous a accordé. Merveilleux. La question que je vous pose, c'est vraiment, est-ce que pour rentrer dans toute la plénitude de ce que vous êtes supposé être en tant que responsable de groupe de vie, où sont les futurs responsables de groupe de vie derrière vous que vous êtes en train de lever ? Pareil avec la louange, pareil avec les enfants, pareil avec toutes les choses que Dieu nous demande de faire au sein de l'Église. Est-ce que nous sommes là en train d'appeler tout le monde, le corps, que ce soit des chrétiens qui le sont depuis 40 ans ou que ce soit des chrétiens qui le sont depuis 40 minutes ? Est-ce qu'on est en train de les appeler à rentrer et à commencer à se mettre au service de Dieu ? Pour que toute l'Église, tous ensemble, nous reflétions et nous servons la gloire et la beauté de Jésus. Ça, c'est un fondamental des églises où il n'y a pas de spectateurs. C'est tellement, tellement essentiel. Et donc, nous sommes des prêtres royaux, tous un peuple choisi, tous une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Ça, c'est encore un fondamental. Est-ce que la croix est au centre de tout ce que vous faites ? Est-ce que la croix est au centre ou est-ce que la croix est secondaire ? Est-ce qu'on voit la croix comme la solution ? Est-ce qu'on voit l'évangile comme la puissance de Dieu pour le salut ? Non pas de tous ceux qui vont croire ou de ceux qui ne croient pas encore. L'évangile comme la puissance de Dieu pour le salut de tous ceux qui croient déjà. Vous croyez, mais vous avez encore besoin de grandir dans la restauration, dans le salut de votre âme, dans la croissance spirituelle, dans le discipulat, dans la ressemblance à Christ. Vous avez besoin de ressembler plus à Dieu et la chose qui va le faire, fondamentalement, c'est l'évangile. Il y a plein d'autres outils qui sont bons, mais ce qui transforme vraiment le cœur, c'est l'évangile. Et donc, alors que vous enseignez, alors que vous prêchez, gardez l'évangile au centre de tout. Et j'entends tellement de gens qui me disent « Mais est-ce que je prêche pour les chrétiens ou pour les non-chrétiens ?» Mais les deux, mon capitaine, pourquoi est-ce qu'on a à choisir ? Et quand on prêche l'évangile entier, on prêche pour les chrétiens et pour les non-chrétiens. On est en train de dire aux non-chrétiens, entrez avec cette croix de Jésus qui est belle et qui est merveilleuse, qui peut vous amener des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Et on est en train de dire aux chrétiens, vous êtes encore en chemin. Et cette force, cette puissance qui vous attire, qui vous a déjà attiré hors des ténèbres, vers la lumière, cette puissance qui vous attire encore plus vers Christ, ça reste l'évangile. Ça reste le message de la croix. Et donc, est-ce que vous chantez encore les merveilles de la croix ? Est-ce que vous vous émerveillez encore de la croix ? Est-ce que la croix de Jésus vous conduit encore à pleurer ? Est-ce que vous vous rendez compte encore une fois ? Est-ce que vous avez toujours cet émerveillement des merveilles que Dieu a accomplies pour nous et des merveilles qu'il veut encore plus accomplir pour nous ? Et mon dernier point, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez maintenant obtenu compassion. J'ai, à la conférence pour anciens et épouses à Bruxelles, Dave a mentionné la prédication de Simon Pettit. sur se souvenir des pauvres. Et je suis pas né dans New Frontiers, donc je l'ai jamais écouté cette prédication. Voilà, confession. Ça faisait plusieurs années que j'étais dans une église New Frontiers, j'avais jamais écouté cette prédication. Pour ceux qui sont en train d'entrer dans la famille d'église New Frontiers, vous allez beaucoup entendre parler de cette prédication. Et peut-être c'est la première fois que vous entendez parler aujourd'hui. Si vous faites un petit peu de cheminement avec nous, vous allez encore beaucoup en entendre parler. Souvenez-vous des pauvres. C'est un message qui a absolument, fondamentalement changé quelque chose dans l'ADN de qui nous sommes en tant que famille d'église. Et Dave a dit, je vous encourage à repartir l'écouter ou à l'écouter pour la première fois. Et je me suis dit, ah tiens, c'est une bonne idée ça. Et vous savez ce qu'on fait quand on entend des prédications? On met dans notre carnet de notes et puis on se dit, ah bah tiens, il faudra que je le fasse. Et puis on rentre chez soi et on ne le fait pas parce que bah voilà, parce qu'on est comme ça et la vie continue. Et moi, je suis extrêmement comme ça. Je vais le faire et puis en fait, non. Et deux semaines après avoir commencé notre implantation d'église, il y a une jeune fille qui était venue la semaine précédente et qui vient la semaine suivante. C'était pendant qu'il y avait de la neige, mais il y avait une sorte de tempête de neige qui a balayé la France. Et elle a dit la semaine suivante, juste avant de venir à nos rencontres, on faisait ça le jeudi soir à l'époque, et elle nous appelle et dit, voilà, j'ai trouvé une migrante dans la rue qui était allongée dans la neige. Est-ce que je peux l'amener ce soir et est-ce que vous auriez moyen de l'héberger? On habite dans 48 mètres carrés à Paris avec nos trois enfants. Et y a un truc en moi qui me dit, tu peux pas dire non. Tu peux pas dire non. Et ce qui se passe, c'est que j'ai appelé Rebecca, je lui ai dit, est-ce qu'on peut? Et on s'est dit, ok, bah, c'est une première leçon pour nous. On va devoir faire ça en église. On peut pas le porter tout seul. Impossible. C'est une personne qui aura besoin de faire des démarches. C'est une personne qui aura besoin d'être hébergée, réhabilitée, etc., etc. On a découvert qu'elle était enceinte avant même qu'on lui dise oui, qu'elle pouvait venir. On a appelé d'autres personnes dans l'église et on a dit, voilà, est-ce que vous vous tiendrez avec nous là-dedans? Et plusieurs sont montés au créneau et ils ont dit oui, on va se tenir à vos côtés là-dedans et on va le faire. Et donc ce soir-là, ça faisait une semaine qu'on avait commencé à implanter l'église, on a accueilli cette femme chez nous. On se réunissait, on louait Dieu, elle était assise sur le canapé, endormie sur l'épaule de cette jeune femme qui l'avait apportée. Et là, je me suis dit, mais la mince, quoi. Là, on est vraiment en train de faire les œuvres de Jésus, quoi. Là, on est vraiment en train de faire les œuvres. Là, j'ai l'impression d'être un des 12 disciples en train de suivre Jésus. Et on l'a hébergée, et elle s'est remise sur pied, elle a recommencé à manger, elle a recommencé à parler, à reprendre un petit peu confiance en elle. Et cette jeune femme a juste été extraordinaire. Et elle a fait toutes les démarches pour qu'elle puisse avoir tous les papiers qu'elle avait besoin pour être accueillie en France. Elle a trouvé maintenant une maison dans laquelle elle peut habiter à plus long terme. On a pris des nouvelles d'elle récemment et elle va être intégrée dans un centre. Elle est accompagnée par des gens et c'est merveilleux de voir ce que Dieu fait. Et nous avons reçu compassion. Et à ce moment-là, je me suis dit, ok Nathan, il faut vraiment que tu réécoutes ce message de Simon Petit. Et je l'ai écouté et ça m'a mis juste un coup de poing aux tripes. Écoutez-le, vraiment écoutez-le. Et son message fondamental, c'est que le soin des pauvres est une priorité apostolique. Le soin des pauvres est une priorité pour les églises qui veulent se dire, qui veulent se nommer apostoliques. Nous ne pouvons pas dire que nous suivons l'exemple des apôtres si nous ne prenons pas soin des pauvres. Et je pourrais refaire la prédication de Simon Petit, mais j'ai déjà plus ou moins dépassé mon timing, donc je ne vais pas le faire. Mais allez l'écouter, et c'est absolument essentiel. Et son message est celui-ci. N'attendez pas d'être une grande église avant de le faire, parce que ça demande juste une personne qui prend soin d'une personne. Et peut-être 10 personnes qui prennent soin d'une personne. Et vous allez dire, mais qu'est-ce que ça change ? Ça change beaucoup pour cette personne. Ça change énormément pour cette personne. Et pour cette personne. Et pour la fondation que ça pose dans l'Église. D'être une Église qui a reçu compassion et qui donne compassion. Donc ça, c'est quelques-unes des choses qu'on est en train d'apprendre en ce moment. On a conduit une première personne au salut il y a de ça quelques semaines. Et c'était formidable de vivre ça. C'était un dimanche où je n'étais pas là. Ça, c'est un autre fondamental. Vous n'êtes pas essentiel. C'était le premier dimanche, je pense, où je n'étais pas là ce dimanche-là. On s'est dit, ce serait pas génial si on avait notre première conversion le dimanche où t'es pas là, Nathan. Et j'ai dit, ah, ce serait trop bien. Et je passe un coup de fil à Rebecca depuis Honfleur. Là où j'étais, on faisait un enterrement de vie de garçon d'un de nos coéquipiers. Elle me dit, bah voilà, Alex a pris la Sainte Seine avec nous. J'étais là, yeah. On a eu notre première conversion. On a aussi, j'ai chassé mon premier démon de ma vie. J'avais jamais fait ça avant. Il y a une jeune femme qui a été mise en contact avec nous, qui avait été vraiment tourmentée. Et on a commencé à louer Dieu dans notre salon. Et là, tout de suite, il y a eu manifestation. On s'est dit, ok, c'est pour de vrai, quoi. Et on a pris autorité. J'ai dû m'y prendre par 3 fois parce que bah, je ne suis pas aussi bon là-dedans que Jésus. Mais je me soigne. Et notre tapis, on a pris un petit peu cher, malheureusement, mais le démon est sorti et elle est différente, elle est nouvelle, elle est restaurée. Et c'est merveilleux, quoi. Et on voit des choses comme ça qui se passent et c'est vraiment formidable. Et juste un dernier truc, j'ai envie de me rajouter à ce que disait George. Implanter des églises, quoi. Implanter des églises, c'est pour vous, ok ? C'est pour tout le monde de participer à ce genre de choses, à ce genre d'aventure, d'être des personnes qui sont impliquées dans la mission de Jésus pour aller apporter son évangile aux extrémités de la terre. Et il y a des gens qui sont venus avec nous qui ont eu des vrais points d'interrogation au niveau de leur emploi. Et il y en a un qui me disait, j'arrête pas d'avoir des nouveaux contrats, ça me vient en permanence. Et je lui ai dit, c'est normal, tu es dans la situation d'emploi la plus sécure au monde, tu es en train d'implanter une église. Et ça a été mon expérience aussi. Je n'ai jamais manqué de contrat pour l'instant alors que je suis en auto-entreprise. Et Dieu a juste pourvu. Donc mettez ces craintes à la poubelle. Elles ne viennent pas de Dieu. Mettez-les à la poubelle. Et lancez-vous si vous sentez Dieu en train de vous parler d'implanter une église. Commencez à prendre des pas vers ça. Commencez à prier pour votre ville, etc. Voilà, soyez bénis.
Merci d'avoir écouté ce message enregistré à la conférence Ascension 2018. Si vous voulez plus d'informations concernant notre famille d'églises ou les événements que nous organisons, n'hésitez pas à visiter notre site internet new-ground.fr.